Vous écoutez « On lit pour vous ».
Ne détournons pas le regard, un texte de Nathalie Collard, paru le 8 juillet 2024 dans la presse. Comment créer des liens avec les personnes en situation d'itinérance plutôt que de les tolérer comme si elles étaient une nuisance? L'autre jour, devant la boulangerie de mon quartier, un homme était couché sur le trottoir à quelques mètres de l'entrée. Impossible de ne pas le voir. Certains clients détournaient le regard, d'autres contournaient l'homme, l'air de se demander s'il devait faire quelque chose. Je me suis aussi posé la question. Devais-je mentionner sa présence au personnel de la boulangerie? Aller lui demander s'il avait besoin de quelque chose? Finalement, je n'ai pas eu à me torturer bien longtemps. Quand je suis ressortie, il était parti. Quelques jours plus tard, en allant rejoindre un ami au restaurant, un jeune homme, bière à la main, s'approche de moi alors que j'attends le feu vert pour traverser. Il me sourit, me dit bonjour, je lui réponds. Jusqu'ici, tout va bien. Puis il se met à crier. J'ai traversé promptement, sans me retourner. Plus sympathique, il y a cet homme qui, tous les jours de la semaine, s'assoit à l'entrée de mon épicerie. Il salue les gens, leur ouvre la porte. Les gens le saluent en retour et lui offrent parfois de l'argent ou quelque chose à manger. Des situations comme celles que je viens de décrire font partie du quotidien de bien des Montréalais et, de plus en plus, de résidents d'autres villes un peu partout au Québec. Les personnes en situation d'itinérance sont plus nombreuses et plus visibles dans nos villes et nos quartiers. Je suis convaincue que la grande majorité des citoyens sont remplis de bienveillance à leur endroit et souhaitent faire le bon geste. Je ne suggère pas de tous nous transformer en intervenants de rue, mais bien de retrouver notre humanité, de tenter de créer des liens avec nos concitoyens qui vivent des moments difficiles. L'expérience du terrain. J'en ai parlé avec des experts de la rue, des gens dont c'est le travail d'intervenir auprès des personnes en situation d'itinérance. Je voulais bénéficier de leur expérience du terrain. Jannick Fortin est directrice, pôle projet et développement à la Société de développement social, SDS, depuis une dizaine d'années. La SDS fait le pont entre différents acteurs de la ville, entreprises, organismes communautaires, milieux carcérales, etc. Elle offre aussi des formations à des agents de sécurité exposés à l'itinérance au quotidien, comme ceux du complexe Desjardins ou d'Hydro-Québec, par exemple. Jannick Fortin insiste sur l'importance de créer des liens. On croise souvent les mêmes personnes dans le métro ou dans notre quartier, dit-elle. Un sourire, un bonjour, même si on n'a pas d'argent à donner, ça fait une différence. Ce sont des gens avec qui on peut dialoguer. Ils le sentent quand on les ignore. Madame Fortin croit que la peur à l'endroit de l'itinérance s'explique parce qu'on la rattache à la santé mentale et à la consommation. Mais ils ne sont pas tous là-dedans, assure-t-elle. Et même s'ils consomment un peu, ils ne sont pas agressifs pour autant. Plusieurs personnes hésitent à saluer une personne dans la rue de peur qu'elle engage une conversation qui ne finira plus. Il s'agit d'imposer sa limite, rassure Jannick Fortin. Il y a une façon polie de dire que tu t'en vas au travail, que tu es pressé. Et puis, une conversation peut parfois éviter qu'une situation dégénère. Un commerçant nous a appelés parce qu'un homme quêtait devant son commerce et ça faisait fuir les clients. On est allé lui parler. L'homme s'est tassé de 10 pieds et on n'a plus jamais eu de problème. La ligne est parfois mince entre la crise et la psychose. Face à quelqu'un qui crie et qui semble un danger pour lui-même ou pour les autres, il ne faut jamais hésiter à composer le 911, rappelle l'intervenante. À ceux qui aimeraient en faire un peu plus, Jannick Fortin suggère des cartes cadeaux de 10 $ de McDo ou Tim Horton. En hiver, les bachots sont toujours bienvenus. Ça peut arriver qu'on nous envoie promener, souligne-t-elle. Mais ton geste de bonté a été posé et, comme je dis toujours dans mes formations, tu n'es pas responsable de la réponse. Tu n'as pas à te sentir mal. La personne passe peut-être simplement une mauvaise journée, comme nous en avons, nous aussi. Une intervention ponctuelle. Je me suis également entretenue avec les gens de l'équipe mobile de médiation et d'intervention sociale, EMMIS. Cette cellule d'intervention, qui était à l'origine un projet pilote de la ville de Montréal, a pour but de libérer les policiers de tout le travail social sur le terrain. Preuve que cette approche donne de bons résultats, l'EMMIS est maintenant présente dans 4 arrondissements centraux et, si tout se passe comme prévu, on souhaite la déployer dans les 19 arrondissements montréalais. À noter que les citoyens ne peuvent pas faire directement appel à l'EMMIS qui répond aux appels de ses partenaires, SPVM, STM, etc. Quand les policiers répondent à un appel d'urgence et constatent qu'il n'y a rien de criminel ou d'urgent, on peut prendre le relais, explique Vincent Morel, directeur de l'EMMIS, qui est également présente dans le métro. Nous avons des voitures, alors nous pouvons nous déplacer. On est sur la première ligne, rappelle Rosalie, intervenante de rue pour l'EMMIS. Notre intervention est ponctuelle. On répond aux besoins immédiats, manger, prendre une douche, dormir, alors que les travailleurs sociaux vont aider dans la recherche de ressources, le suivi psychosocial, etc. Rosalie voit de plus en plus d'immigrants avec leurs valises qui passent directement de l'aéroport à la rue, seuls ou avec leur famille. Ils ne parlent ni anglais ni français et sont vraiment perdus. On les dirige alors vers les bonnes ressources. Une mauvaise passe. Ce ne sont pas tous les gens dans la rue qui consomment, insiste Vincent Morel, qui aimerait qu'on évite de voir les personnes itinérantes comme un bloc homogène. Deux ou trois malchances dans la vie et, financièrement, on peut se retrouver sans logement. Une séparation, une perte d'emploi, une éviction, une dépendance au jeu, un accident de travail. La personne à qui cela arrive ne pensait jamais se retrouver à la rue. Des fois ça dure 2 mois, des fois 2 ans. Les gens s'en sortent et retrouvent une vie comme avant. Je demande à Rosalie ce que lui disent les personnes itinérantes qu'elle côtoie sur nos attitudes. Ils parlent de nous comme des gens normaux, me dit l'intervenante qui, au départ, se trouvait trop sensible pour travailler auprès des personnes itinérantes. Elle craignait de trouver cela trop dur. J'ai changé d'idée à force de les côtoyer, ajoute la jeune femme. Ce sont des personnes sympathiques, attachantes. Souvent, quand je vais me présenter à eux, ils me disent « Wow, t'es la première personne qui me regarde ou qui me parle aujourd'hui. Ce sont des humains comme nous. Ils méritent au moins un bonjour. » Des trucs et des ressources. 211, informations et références pour les organismes communautaires. 911, service d'urgence. Si quelqu'un est en crise dans le métro, pas besoin de tirer la manette d'urgence. On utilise l'interphone pour parler au conducteur et l'aviser de la situation. Il pourra s'assurer que quelqu'un intervienne en station. Transporter une trousse de naloxone avec soi. Elles sont distribuées gratuitement dans les pharmacies. Il s'agit d'un vaporisateur nasal à utiliser pour quelqu'un en surdose d'opioïdes. On trouve également un masque et des gants dans la trousse. Application mobile SAMIC. On y trouve toutes les ressources selon les problématiques, itinérance, toxicomanie, violence conjugale, etc., avec les coordonnées et les heures d'ouverture des organismes, l'itinéraire pour s'y rendre, etc. C'est gratuit. On devrait tous l'avoir sur notre téléphone. Application mobile DEA Québec permet de géolocaliser un défibrillateur autour de vous. C'était « Ne détournons pas le regard », un texte de Nathalie Collard, paru le 8 juillet 2024 dans La Presse.
Pierre Poilievre, sophiste de tous les excès. Un texte d'Étienne Haché, paru le 2 juin 2024 dans Le Franco en Alberta. Contrairement à Justin Trudeau, qui a bercé depuis son tout jeune âge dans le monde politique, le nom de Pierre Poilievre ne disait rien il y a encore quelques années. Il eut pour la première fois à la Chambre des communes en 2004, dans l'ancienne circonscription ontarienne de Nepean-Carleton, puis réélu maintes fois et nommé successivement ministre d'État des institutions démocratiques et ministre des Ressources humaines et du Développement social sous le gouvernement de Stephen Harper, Pierre Poilievre deviendra finalement chef du Parti conservateur du Canada le 10 septembre 2022. Depuis, Poilievre a fait une ascension politique fulgurante en se forgeant une image médiatique, notamment grâce aux réseaux sociaux. Au point de figurer comme favori au poste de premier ministre du Canada en 2025, dans les divers sondages d'opinion. Son slogan, simple mais redoutable, est celui auquel nous ont tant habitués, par le passé, des représentants de la nouvelle droite conservatrice canadienne comme Stockwell Day, Jason Kenney et surtout Stephen Harper. « Je décide les réponses que je donne. » Soit. Limite d'un discours performatif. Ici, les réponses étaient ou bien fausses ou bien déformées. Il y a plus d'un problème, en effet, avec cet ancien communicant de carrière originaire de la Saskatchewan et formé à l'Université de Calgary. Héritier de l'Alliance canadienne, un parti politique fondé en 2000 et théorisé par les libertariens et les conservateurs de l'École de Calgary, qui fut en fait la résultante d'un congrès tenu à Vancouver en 1986 sur l'avenir économique et politique du Canada et d'une fusion avec le Parti réformiste de Preston Manning fondé en 1987 et qui provoquera d'ailleurs un véritable schisme au sein du Parti progressiste conservateur du Canada. Disciple de la première heure de l'ancien ministre John Baird, peu scrupuleux qui plus est des protocoles en politique, Poilievre est indubitablement un populiste dont le discours gagne même du terrain chez les jeunes. Ce qui est particulièrement inquiétant quand on sait le contenu à la fois évasif et radical de ses propositions en matière d'économie et de législation. Avec lui, nous sommes toutefois aux antipodes de Stockwell Day et des fondamentalistes religieux de l'Alliance qui prônaient que l'espèce humaine datait de 6000 ans et qu'Adam et Ève avaient marché dans le jardin d'Éden avec des dinosaures. Pas étonnant qu'avec pareil discours de grande voix du conservatisme canadien, tel que Brian Mulroney, au sommet de sa gloire, ou encore Joe Clark, lorsque celui-ci a repris provisoirement les rênes d'un groupe politique en pleine crise, voir Stephen Harper lui-même, pourtant taxé de fondamentaliste, ait pu, pour un temps du moins, faire contrepoids et maintenir l'esprit conservateur canadien dans le droit fil de la rectitude politique et de la tradition parlementaire. Assez loin aussi des ambiguïtés d'autres néo-conservateurs concernant l'avortement, Poilievre se dit pro-choix, et l'homosexualité, le chef conservateur étant désormais ouvert au mariage des couples homosexuels, qui est, à ses yeux, une réussite. Cette volonté de respect de la diversité et des choix de vie de chacun lui permet incontestablement de gagner en crédibilité auprès d'un électorat habituellement acquis aux libéraux et à la gauche canadienne. Reste que s'il compte devenir premier ministre en octobre 2025, le chef conservateur, qui se dit anti-woke, devra aussi se défaire d'une autre réputation qui lui colle durablement à la peau. Accusé de tous bords de produire de fausses nouvelles, citons sa position sur la loi canadienne de diffusion en ligne, qu'il qualifie d'atteinte à la liberté d'expression comparable à la censure en Corée du Nord, bien décidé à ébranler certaines structures de l'État, Poilievre a toujours en tête le limogeage du gouverneur de la Banque du Canada qu'il juge responsable de l'inflation au pays, mais tout en se montrant moins enclin que l'an dernier à inciter les Canadiens sur les chaînes YouTube à investir dans la crypto-monnaie pour contrer l'inflation. Manquant de clarté au sujet du devenir des médias officiels comme Radio-Canada, le chef conservateur a souvent répété qu'il coupera le financement aux services publics d'information. Soupçonné, non sans raison d'ailleurs, de sympathiser avec des complotistes et des conspirationnistes, dont le fondateur du réseau Dialogon, aux visions néofascistes, le Canadien Jeremy McKenzie, ainsi que l'Américain Alex Jones, à lui de démentir fermement et une fois pour toutes ces accusations. Bref, celui à qui l'on reproche de miser sur la division pour se hisser au pouvoir a encore beaucoup de pain sur la planche s'il compte convaincre l'électorat canadien qu'il est l'homme de la situation. Le fait de donner l'impression de jouer avec la peur et de laisser planer le doute sur ses intentions n'a jamais été une qualité pour un candidat qui convoite le poste de Premier ministre du Canada. Il nous faut un chef qui est capable de partager nos valeurs conservatrices d'une façon qui attire les Canadiens qui n'ont pas voté pour nous aux dernières élections, tout en restant fidèles à nos principes. Ainsi parlait Poilievre en janvier 2020. Or, que répond-il aujourd'hui à des électeurs en quête de certitude et de vérité? Que dirait-il à toutes celles et à tous ceux qui lui rappelleraient ses récents propos à l'égard du Premier ministre Trudeau en plein débat parlementaire qui lui ont valu d'être expulsé de la Chambre des communes? L'inexpérience du pouvoir. La politique est un art, dit-on. S'il en fallait une preuve, nous pourrions la trouver lors d'un moment assez tendu d'une conversation captée entre Poilievre et Joe Biden lors de la venue du président américain au Parlement canadien en mars 2023. À Poilievre, qui s'était présenté comme le chef de la loyale opposition de Sa Majesté, Biden a demandé « Opposition loyale ?» Poilievre lui a alors assuré que l'opposition est effectivement un acte de loyauté dans le système politique canadien. Rigolant et tapotant Poilievre sur le bras, le président américain répondit aussitôt « Nous aussi, malheureusement ». Malgré la boutade du président américain, Poilievre avait au moins eu le mérite ce jour-là d'être conforme à ses intentions. Celui qui appartient à la frange la plus radicale du Parti conservateur et qui se définit comme un vrai libertarien, idéologie tellement galvaudée qu'elle peut très vite se refermer comme un piège sur ses défenseurs, n'est sans doute pas aussi radical qu'Alex Jones et Donald Trump. Comme le souligne Charles-Étienne Baudry, auteur du livre « Radio Trump, comment il a gagné la première fois » 2024, les Alex Jones canadiens, Radio Pirate, Rebel News, Jordan Peterson, tous ont un discours plus ou moins mainstream, mais empreint de complotisme. Pour sa part, Poilievre souffle le chaud et le froid parce qu'il ne veut pas se les aliéner. En réalité, le chef conservateur est pleinement conscient de ce qu'il fait. Ce qui est tout aussi dangereux pour un homme qui se dit très attaché au régime politique et constitutionnel canadien. La devise de l'école secondaire Henry Wisewood à Calgary, où Poilievre a fait ses études, est « La fin couronne l'œuvre, the end crowns the work ». Visiblement, par ses actions et ses paroles plus ou moins douteuses et son attitude très discutable de parlementaire, tel un enfant roi, comme celui que décrit Rousseau dans le livre 1 des 1000, la devise du chef conservateur est davantage que la fin justifie tous les moyens pour y parvenir. Poilievre n'a rien compris au sens machiavélien du rapport de la virtu et de la fortuna. Le discours performatif est insuffisant, comme en témoignent les expériences malheureuses d'Erin O'Toole et d'Andrew Scheer. tout n'est pas que communication en politique. Il faut non seulement du génie pour réaliser de grandes œuvres, mais aussi de la sagesse pour résister aux vicio, lorsque la nature des choses s'impose à soi. Le chemin de la victoire, tout comme celui de la défaite, est là. C'était Pierre Poilièvre, sophiste de tous les excès. Un texte d'Étienne Haché, paru le 2 juin 2024 dans Le Franco, en Alberta.
Un budget de vacances serré pour de nombreuses familles. Un texte de Rosanne Liouzon, paru le 18 juillet 2024 dans Le Devoir. Cette année, des parents réduisent leurs ambitions de vacances et usent de créativité pour amuser leurs enfants de façon abordable. Pour d'autres, les sorties familiales sont un luxe rarissime. Témoignage. Nos vacances sont un peu plates, lance Geneviève Simard, une mère de famille monoparentale de deux préadolescents. On va rester à la maison et faire des activités dans la nature. En 2024, la situation économique a réduit les revenus de son entreprise d'édition en même temps que tout coûte plus cher. Madame Simard n'a donc pas les moyens d'amener ses jeunes faire un petit voyage aux États-Unis comme ils avaient l'habitude de le faire. Elle trouve dommage que ses enfants puissent trouver leur programme estival un peu moins excitant que ceux de leurs amis. Compte tenu du budget plus serré que d'habitude, un bon nombre d'activités seront aussi hors de portée. Un parcours dans les arbres de 3 heures coûterait à sa famille environ 150 $. 3 entrées dans un parc aquatique s'approchent de 200 $, taxes comprises. Madame Simard se trouve chanceuse d'habiter à Québec, près de parcs naturels, car elle pourra amener ses enfants faire de la randonnée pendant leurs vacances du mois d'août. La chasse aux étoiles, qui consiste à se rendre dans le fin fond d'un rang, à une heure tardive pour regarder le ciel, a aussi la cote auprès de sa tribu. Pour le reste, ils joueront probablement à des jeux de société. Jusqu'à récemment, la Montréalaise Joanie Boire avait les moyens de partir sur la Côte-Nord pendant une semaine avec son enfant, aujourd'hui âgé de 8 ans. À la fin du mois de juillet, elle a une semaine de vacances avec lui alors qu'il prendra une pause de 4 jours. Mais cet été, elle est célibataire et son budget est plus serré, malgré des revenus stables. Je me disais qu'on allait partir en camping à 2. Mais plus on se rapproche de la date, plus je fais des calculs et je me dis qu'on ne pourra aller nulle part pendant cette semaine. Malheureusement, déplore-t-elle. Elle a l'impression d'avoir déjà épuisé toutes les idées de sorties gratuites ou à bas prix de Montréal et des environs. Le prix des activités qui sortent un peu de l'ordinaire, comme la ronde, les glissades d'eau ou une journée à la plage, autre que celle de Verdun, lui donne un peu d'anxiété. Et même si tu vas à une activité gratuite, ton enfant va avoir faim ou soif, tu vas vouloir lui payer une gâterie. Il y a toujours des coûts, indique-t-elle. Comme elle peut de moins en moins se permettre de sortir de la ville, elle envisage de vendre sa voiture, qui coûte aussi très cher. Elle essaie de trouver des activités originales à faire à la maison. C'est juste poche de ne pas avoir les moyens de faire quelque chose avec son enfant. C'est étrange comme sensation, raconte-t-elle, la gorge serrée. Piscine publique et spectacle gratuit. Annie Labelle n'est en mesure de payer presque aucune sortie à ses 7 enfants pendant l'été. On n'a jamais voyagé à l'extérieur du pays, mais avant, on allait passer une semaine ou deux dans d'autres régions du Québec. Avec les années, on est passé de l'hôtel au camping, puis du camping à de l'hébergement chez des connaissances. En 2024, on va aller au parc avec des jouets empruntés d'un organisme communautaire, a exposé cette mère au foyer. Pour éviter que sa marmaille se plaigne de trouver le temps long, Madame Labelle cherche activement les activités gratuites, comme les spectacles dans les parcs et la visite de musées le premier dimanche du mois. Elle fréquente les piscines publiques et les jeux d'eau. Grâce à un concours, elle a remporté en 2023 4 billets pour le parc d'aventure Voile en Voile, situé dans le Vieux-Port de Montréal. mais pour que tous ses enfants intéressés puissent participer, il lui faudrait ajouter 2 billets pour le parc aérien, ce qui lui coûterait tout de même plus de 120 $. « On va le faire, mais pas tout de suite », a précisé la mère. La Montréalaise Maude Landreville estime aussi que les infrastructures publiques, comme les piscines et les parcs, de même que les ruelles aménagées, sont essentielles pour de nombreux enfants qui passent l'été majoritairement en ville, dont les siens. « Certaines manquent toutefois d'entretien ou sont fermées », regrette-t-elle. Joannie Chassé, pour sa part, déplore que l'offre d'activités familiales gratuites, surtout destinées aux enfants en bas âge, soit très restreinte dans les régions autres que Montréal. Non seulement les activités sont dispendieuses, mais elles sont aussi éloignées et nécessitent plus de transport, donc des dépenses supplémentaires, fait valoir celle qui demeure dans les Laurentides. Charge mentale. De son côté, Catherine Paulin estime que la planification budgétaire d'activités familiales est devenue une lourde charge mentale. Il faut notamment comparer les coûts des différentes options, penser au lunch et déterminer quel type de transport entre l'auto, le transport en commun et le vélo est le plus avantageux dans les circonstances. La plus dispendieuse de nos activités était, de loin, la ronde. Même avec nos passes et le fait que notre fille rentre gratuitement, souligne cette chargée de cours et candidate au doctorat en histoire. Les coûts pour manger sur place sont exorbitants. Pour une nourriture de qualité médiocre, mais impossible d'y rentrer avec son propre lunch. Même pour de l'autocueillette de fruits, certains endroits demandent maintenant un coût d'entrée qui n'inclut pas le panier et qui est presque aussi élevé que si on ne cueillait pas nous-mêmes. Intervenante dans une maison d'hébergement pour adolescentes en difficulté, Marie-Ève Saint-Germain doit pour sa part divertir avec ses collègues jusqu'à 9 filles de 12 à 17 ans en congé scolaire. Et la tâche est de plus en plus difficile, juge-t-elle. Aller au parc aquatique avec 9 filles, ce n'est pas possible, souligne-t-elle. Même louer des embarcations nautiques pour une journée en plein air peut peser lourd sur les finances de l'organisme. Les intervenants doivent redoubler d'énergie pour trouver des commanditaires et imaginer de l'animation à bas coût. C'est rendu un luxe de faire des activités, soutient Mme Saint-Germain. Pourtant, croit-elle, ça fait partie de ce qui est important pour la santé mentale. C'était un budget de vacances serré pour de nombreuses familles. Un texte de Rosanne Léoujean, paru le 18 juillet 2024 dans Le Devoir.